un coup dans la tête.
Groovy.
Bonjour, Françoise Tressart et la belle équipe. Pour un numéro spécial des Papous dans la tête, enregistré en public le 9 décembre dernier, Petit Papou Noël. Le studio 105 de la Maison de la Radio était plein à craquer. Nos visages à tous, sur scène et dans la salle, réjouis. Noël, c'est toujours un doux mélange d'émotions à partager, du rire à la surprise, en passant par la fausse colère, le souvenir. Et tout était plaisir, un programme généreux à la Papou, qui nous a gardés ensemble 3 heures et que vous pourrez découvrir aujourd'hui, 25 décembre. Et puis le 1er janvier et le 8 encore, nos cadeaux en toute complicité. À ceux qui écoutent en direct, bon Noël. À tous ceux qui écouteront en podcast sur franceculture.fr, c'est le moment de vous abonner, c'est gratuit. Et tiens, tant qu'on y est, joyeux Noël à tous, les amis fidèles et ceux qui nous découvrent. Avec moi, sur la scène du 105, 12 papous. Jeanne Carillon, Patrick Beignet, Lucas Fournier, Eva Almassi, Jacques Jouet, Jacques Abertrand, Hervé Letellier, Odile Conseil, Jean-Bernard Pouy, Violaine Schwartz, Serge Oncourt. Et pour accompagner nos jeux en musique, Vadim Cher au piano, nouveau venu chez les papous. Merci Vadim. Comme toujours dans nos papous publics, tout commence par la chanson du programme. Jeanne Carillon sur l'air d'Alabama Song de Kurt Weill. Petit Papou Noël, première partie. Musique.
Je chante pour vous, ô papou, messieurs, dames, tout le programme. Demandez le programme. Le programme de Noël des papous, pour vous, devant vous, Noël des papous. Ah, on s'en souviendra, ah, on s'en souviendra, ah, on s'en, bon sang, ça, ça, on s'en souviendra. Oh, dis-le, va, Violaine, Lucas, Patrick, Hervé, Gigi, Jacques et Serge, JB, Vadim et Françoise. Chouette, on est très à table. Peut-être bien que ça va border la scène et ses apôtres. Dernier repas, un Judas Nanas. On est là pour vous sur la scène des papous. Messieurs, mesdames, bienvenue messieurs, dames. C'est une réclame, réclame des papous. Pour vous, devant vous, le Noël des papous. On sortira les rames, on détournera les trames. Pas question, question pas, question qu'on se rétame. Odile, Eva, Violaine, Lucas, Patrick, Hervé, Gigi, Jacques et Serge, JB, Vadim et Françoise. Une lettre au Père Noël, un roman sur l'astrée. Culinaire, une gueule de bois, ça va chauffer. Expert contre faussaire, qui va tout débusquer. Eva ou peut-être Serge, face à Odile, Lucas, JB, une pause. Cendrillonne en guise de conte de fées et moi qui t'aime. rayonne sur du Courtweil enchanté.
Place à Jean-Bernard Pouy. Alors, après la rentrée, après l'amour, les fêtes, c'est le troisième volet d'un triptyque de Jean-Bernard Pouy. À chaque fois, ça se passe en une phrase. Pas de point d'exclamation.
Pas de point.
Bon, j'allais dire que vous étiez parti pour 5 minutes en apnée et que peut-être il fallait prendre une grande lampée d'air plein de particules fines.
Absolument.
Allez, on vous écoute. Les fêtes.
D'abord, une devinette. Et qu'est-ce qu'elle dit, la dinde ? La dinde, elle dit « Joyeux Noël, la dinde ». Faites semblant de rire, on lui a fait sa fête à la dinde. Faites votre possible. Ne faites pas votre bégueule, car on entre bien en tête. C'est Noël dans la période des fêtes. Noël, minuit chrétien, c'est l'heure solennelle. Et tout le toutim. Et tiens, où irez-vous pour les fêtes, ce moment de l'année où plein de fêtards se mettent des chapeaux brillants et pointus sur la tête en hurlant leur joie, et d'autres ruminent une exaspération et une mélancolie qui ne se calmeront qu'au premier jour de l'été. Faites des cadeaux, c'est important les cadeaux, ça devait être tous les jours les cadeaux, mais non, c'est pour les fêtes, les cadeaux. Alors, faites les fous, faites vos 4 volontés, c'est le moment, un seul mot d'ordre, faites la fête à fond, et vous serez à la fête, même si ça fait peur. La fête à quoi ? À qui ? La fête à neuneux, la fête des mères ou la fête des morts ? Alors, n'ayons qu'une fête, celle des mots, joyeuse fête, bonne fête, faites l'amour, pas la guerre, faites des folies, faites-vous plaisir, faites-vous beau, faites-vous belle, faites sensation, faites pour le mieux, faites le nécessaire, ne faites pas la tronche puisque c'est la fête du 14 juillet, de l'homme nouveau, de la libération, de la victoire, de l'armistice, du jubilé, du bicentenaire, la fête du travail où curieusement l'ordre est « ne faites rien », que des bonnes choses, des moments heureux, que des bouchons de champagne qui sautent, des cotillons qui couinent, des fringues qui scintillent, sinon c'est pas la fête. C'est plutôt la commémoration. Et là, vous faites la gueule. Vous faites grise mine. Et même si, question mémoire, vous n'êtes pas la fête, c'est plutôt la fête à Alzheimer. Faites semblant. Faites comme si. Faites comme ça. Ce n'est pas tous les jours fête. Oh, en fait, ce n'est pas vrai. Si on réfléchit un tant soit peu, c'est presque tous les jours fête. Entre les fêtes politiques, la fête Dieu, la fête pénitence, les fêtes carillonnées, la fête de la musique, où, là, on vous ordonne, faites du bruit. Les fêtes votives, les fêtes de bienfaisance et de charité, la fête des vendanges, de la moisson, de la bière, tout ça. Et les dimanches et fêtes, tous ces jours où il y a un air de fête, et même au printemps ou en automne, quand la nature est en fête, et même dans un bled sinistre où il y a toujours une salle des fêtes, généralement polyvalente, gérée par un comité des fêtes. Même les fêtes ont besoin d'organisation, surtout les fêtes galantes, où il y a toujours quelqu'un qui vous dira « Tiens, surprise, qu'est-ce que vous faites ici ?» Et pourtant, même les fêtes sauvages, les bamboulas d'enfer, les bamboches d'anthologie, les noubas des mantes, les bringues de 3 jours, les fiestas de l'année, les foires avinées, les javas sublimes, ça se vit, mais ça ne s'improvise pas, ça se calcule. La teuf imprévue, c'est assez rare. Et je ne parle pas des festivités redondantes, les fêtes foraines, avec le grand 8 pour vomir ensemble, les fêtes de famille avec l'atroce gigot flageolet à moitié caillé, ou bien le Paris-Brest qui a l'air d'avoir fait le voyage, avec tous les convives qui ne peuvent s'empêcher de bramer « Ah, oh, on n'a jamais été à Paris fête !» Toutes ces fêtes de bureau, malheureusement obligatoires, arrosées de mousseux tièdes et de bretzel mou, où vous faites le nécessaire, où vous faites parfois votre devoir, où vous faites quelquefois le mort, comme au bridge, et aussi l'imbécile, vous ne pouvez pas résister, où vous faites parfois la gueule, ce n'est pas tous les jours jour de fête, et si quelqu'un vous le reproche, vous lui répondez que s'il continue, ça va être sa fête. Et même chez soi, en permanence, il faut l'installer, la fête, à la force du poignet. Faites comme chez vous. Faites le ménage, la fête du balai. Faites la vaisselle, la fête du gras. Faites de l'essence, faites des provisions, la fête à Leclerc. Faites les courses, la fête à Monoprix. Et faites la pointe, faites la cuisine. Bref, faites ce qu'il faut pour que tous les jours soient une fête. Mais attention, faites ce qu'il faut. N'en faites pas trop. Et c'est pareil pour les enfants, soi-disant la fête de nos vieux jours. Faites un poupou à pépé, à mémé. Faites vos besoins, faites pipi, faites caca, faites vos devoirs, faites attention, ce n'est pas le moment de gâcher la fête, surtout celle de l'école. Ne faites pas les difficiles, faites-vous tout petit, et après faites des études. Et après plein de diplômes, faites votre travail, faites votre beurre, faites-le au bluff si nécessaire, faites l'affaire, et si ça marche pas comme vous voulez, n'en faites pas tout un plat, n'en faites pas tout un drame. Mais faites-vous des relations, faites-vous des amis, ça ira mieux, ne vous faites plus d'illusions, de soucis, faites place nette autour de vous. Table rase. Faites face, faites front, faites la fête. Ne faites plus les poubelles. Faites le mur comme un évadé. Faites savoir que vous êtes le plus beau, le plus fort, le plus doué. Et ce sera la fête permanente. Tout ira bien et vous grimperez aux fêtes de la gloire, aux fêtes des honneurs. Et vous ne serez pas, comme disait Balzac, l'homme tombé du fait de ses espérances. Et alors, vous pourrez parler d'amour. Alors, faites les yeux doux, faites des compliments, faites la fête de l'amour, et puis faites des petits, faites des enfants. Ça aussi, c'est une fête, du moins de temps en temps. Il n'y aura jamais les fêtes de la couche culotte. Faites route vers l'avenir, faites-le à 100 à l'heure, faites-vous mal, ne faites pas les poches sur les espoirs. Alors, du coup, faites suprême, faites un poème. Oh.
Vous vous demandez peut-être à quoi servent les trois tables qui sont derrière nous. Alors, ces trois tables, elles vont servir à Hervé Le Tellier, à Jacques Jouy et à Jacques Abertrand pour écrire des exercices de style. Ils mettront un casque sur leurs oreilles pour s'isoler un petit peu de l'ambiance, parce que nous, pendant ce temps, on va continuer de jouer, bien sûr. Alors, il m'est apparu que, comme nous étions le jour de Noël, n'est-ce pas, ce serait bien de tripatouiller un conte. Et je me suis intéressée à Cendrillon. Alors évidemment, Cendrillon comporte 40 pages. Ce serait beaucoup trop long pour nos trois papous de jouer à transposer 40 pages dans un style imposé. Donc j'ai demandé, premier exercice, à Jacques Abertrand de réécrire cette histoire, d'en faire un résumé, mais le plus objectivement possible et en une page. Donc Jacques Abertrand, objectif. Cendrillon.
Il était une fois un gentilhomme qui épousa en seconde noce une veuve hautaine et sévère. Cette dernière avait deux filles qui, pour le moins, manquaient de séduction. Aussi prit-elle rapidement en grippe la jeune fille, belle et sage, de son mari. Elle la chargea de toutes les corvées ménagères. La jeune fille, refusant de s'en plaindre à son père qu'elle savait faible, se consolait en rêvant le soir, assise sur le bord de la cheminée, près des cendres, c'est pourquoi ses désagréables demi-sœurs la surnommèrent Cendrillon. Il advint que le fils du roi organisa un grand bal. Les filles de la marâtre se virent offrir de splendides parures pour s'y rendre. Cendrillon, n'ayant que ses guenilles, ne pouvait envisager de les suivre. C'est alors que sa marraine, qui était une fée, décida de la récompenser. Sa baguette magique fit une grosse citrouille, un carrosse, de souris un attelage de 6 chevaux et des laquais en livrée. Sa pauvre tunique fut changée en habit de drap d'or et de pierreries. Cendrillon se rendit ainsi au bal où elle fit forte impression. Le fils du roi conquis lui fit sa cour toute la soirée. Aussi, ce ne fut qu'en entendant sonner les 12 coups de minuit qu'elle se souvint que sa marraine lui avait ordonné de rentrer avant cette heure fatidique où tous les effets de sa magie s'évanouiraient. Cendrillon s'enfuit en courant, tandis que son bel habit redevenait guenille et le carrosse citrouille. Elle rentra à pied. Cependant, elle avait, en s'échappant, perdu un soulier, une magnifique pantoufle de verre d'une pointure très fine. Le prince l'avait ramassée et n'eut dès lors de cesse de retrouver sa propriétaire qu'il déclara vouloir épouser. Princesse, duchesse, bourgeoise, toutes les femmes du pays, y compris les demi-sœurs, durent essayer la pantoufle de verre sans succès. Cendrillon fut la seule à pouvoir la chausser. Aussitôt, sa modeste robe se para d'or et d'argent. Le prince la reconnut et en fit sa princesse. Ils vécurent très heureux et ne firent que du bonheur autour d'eux.
C'est très joli, très objectif. Et on a tous bien l'histoire en tête maintenant. Moi, je pensais que ça se terminait sur des enfants. Ils eurent beaucoup d'enfants. Ça n'empêche pas d'être heureux, d'ailleurs.
J'ai laissé ça pour l'exercice de style.
D'accord. Alors, j'ai mis quelques styles dans ce chapeau. Il n'y en a pas tant que ça, il y en a 6, vous êtes 3. Je rappelle la règle qui consiste à faire un premier tirage. Si vous prenez, c'est parfait. Si vous ne prenez pas, vous avez le droit à un deuxième. Et si vous ne prenez pas le deuxième, vous irez au troisième tirage. Et là, vous serez obligé de vous exécuter et d'écrire selon le style imposé, pas de retour en arrière possible. Ce qui est quand même très difficile, vous êtes d'accord, hein? Il y en a qui veulent venir avec eux pour travailler? Non, bon. Alors, passez ce chapeau. Allez, on va commencer avec Jacques Jouy. qui est un homme très courageux. Il s'élance.
Non, c'est
non, ça, c'est l'étiquette du chapeau.
Style pure laine. Style journaliste en édition spéciale.
Oui. Vous regardez BFM parfois et les autres. Non, vous ne le remettez pas tout de suite. Non, vous pourriez le retirer. Préfère, alors, deuxième style.
Je préfère, oui, prendre un... Style crise à l'usine.
Ah, réfléchissez un petit peu. Il est tenté, il hésite. Réfléchit intensément.
Oui, je vais prendre deux crises à l'usine.
Bon, alors vous remettez le journaliste dans le
J'ai
chapeau.
J'ai trop peur du troisième.
Vous remettez, vous mélangez, parce que Jacques a tout vu, là. Et vous passez le chapeau à Jacques Bertrand.
Style journaliste en édition spéciale.
Non, je sens que ça ne va pas plaire, ça.
Style histoire corse.
Ah, alors...
Je vais prendre ça.
Ils ne sont pas courageux, ils ne vont pas au troisième. Alors, remettez le journaliste dans le chapeau. Hervé n'a rien vu. Mélangez un petit peu, Jacques Jouet, s'il vous plaît. À vous, Hervé.
Style saga islandaise. J'ai déjà fait saga islandaise.
Et ah bon?
J'ai peur de retomber dans les mêmes travers.
Alors, ne faites pas.
Non.
Ouais.
Style chorégraphie pour un ballet contemporain.
Ah, Jacques Jouet, on a toujours rêvé, je l'avais remis une nouvelle fois pour lui, et c'est pas lui qui l'a eu.
Je fais un truc absolument infiniment courageux.
Vous prenez le troisième, bravo, on peut l'encourager, non?
Ouais. Style les primaires.
Eh bien voilà, vous avez gagné.
Eh bien. Je crois que je vais le prendre.
Oui. Alors, vous allez travailler derrière. Serge nous rejoint, Patrick aussi, Eva Almassi également. Et maintenant, on va jouer à expert contre faussaire. Alors, je vous dis d'abord qui est qui. Les experts seront Eva Almassi et Serge Joncourt. Les faussaires, Odile Conseil, Jean-Bernard Pouy, Lucas Fournier, et l'homme qui est le maître du jeu parce que c'est lui qui a choisi l'œuvre avec laquelle on va s'exercer, c'est Patrick Beignet. Alors, en quoi ça consiste, expert contre faussaire? Eh bien, ça consiste pour les trois faussaires à faire croire qu'ils connaissent par cœur le début et la fin d'une certaine œuvre. Et évidemment, à défaut de les connaître, ils vont les imaginer et faire de très habiles contrefaçons, parce que ce sont des gens extrêmement cultivés, et drôles, et brillants. Hein, vous les avez déjà entendus jouer. Oui, il y a un monsieur qui bouge sa main, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Oui, ça veut dire oui. Bon, donc, ils vont faire passer leur faux pour du vrai. Maintenant, ils ont face à eux deux redoutables experts. Eva Almassi, qui a parfois trouvé des choses, il y a quelque temps. Serge Joncourt, qui est parfois excessivement brillant. Pas toujours. Pas toujours. Et mais eux aussi sont fins, cultivés, donc... Ils peuvent ne pas se laisser piéger, parce que le but du jeu, c'est quand même pour les faussaires d'essayer de masquer leurs défauts, leurs tics d'écriture. Et c'est pas toujours facile. Leurs qualités aussi, hein, pas que leurs défauts, évidemment. Patrick Beignet, vous avez choisi quoi?
Eh bien, comme nous avons décidé de placer cette soirée sous le signe de la diversité, j'ai choisi un conte de Perrault.
Voilà.
Et un conte de Perrault très proche de Cendrillon. Donc ceux qui n'ont pas tout compris dans Cendrillon pourraient peut-être améliorer leur compréhension. Il y a quand même des différences. La première, c'est celle de la brièveté de ce conte qui s'appelle Les Fées, qui est le plus court des contes de Perrault. Il fait 4 petites pages. C'est trop court pour endormir un enfant, donc c'est pas utilisable. Alors, ça raconte l'histoire d'une famille. La mère est veuve, elle a 2 filles. Une, l'aînée, qui est méchante, hargneuse et désagréable. La cadette, qui est charmante, gentille, douce, et donc qui est exploitée par sa mère, qui n'a Dieu que pour l'aînée. L'intrigue de ce conte commence lorsque la mère envoie la cadette, qui fait tous les travaux difficiles, elle l'envoie chercher de l'eau à la fontaine, qui est assez loin de la maison.
La fontaine ou Perrault?
J'ai dit qu'il était parfois très brillant.
Il est dans un bon jour.
J'essaie de le déconcentrer, parce qu'il est plein d'assurance. Là.
Et donc,
La Fontaine, oui.
La fille, qui n'a pas de nom, la fille cadette, va jusqu'à La Fontaine remplir le seau. Tout est clair, Serge? Et à ce moment, une pauvresse misérable s'approche et lui demande de lui donner un peu d'eau à boire. Et la jeune fille est extrêmement obligeante et accomplit le désir de cette vieille pauvresse, laquelle se transforme illico en ce qu'elle est réellement, une fée gentille, qui lui dit, puisque tu m'as... servi si obligeamment, je te donne un grand cadeau. Chaque fois que tu ouvriras la bouche, désormais, il en sortira des fleurs ou des pierres précieuses.
Ah, c'est horrible.
J'ai rien compris.
Bah, c'est joyeux.
Elle rentre.
Bah, non.
J'essaie simplement de faire un résumé. Je vois que les experts sont très pressés de passer à l'action.
Ah oui.
Il ferait mieux d'écouter, à
parce
mon avis.
Parce qu'ils sont stressés.
On écoute.
Ah oui. Et donc,
mais le sceau, vous l'écrivez comment?
Constatant le don qui a été remis à sa fille, la mère s'empresse d'envoyer à La Fontaine la fille aînée, celle qu'elle aime le plus, sa fille désagréable et méchante, qui grogne, évidemment, qui ne veut pas y aller, c'est pas à moi de faire le service, etc. Elle y va quand même, poussée par sa mère. Et lorsqu'elle arrive à La Fontaine, apparaît une femme radieuse, richement habillée, splendide, qui demande un verre d'eau que la fille aînée s'empresse de refuser, encore plus désagréable que d'habitude, et dit « j'ai pas que ça à faire, je transpose en langue du XXe siècle,
ah oui,
même du XXIe.
»
Et la fée, car c'était encore une fée, et la même, lui dit « puisque tu es si désagréable, chaque fois que tu ouvriras la bouche, il en sortira... » des vipères ou des crapauds.
Voilà. Alors, vous pouvez situer, comme ça, en deux mots, le début et la fin, dire exactement ce que vous avez dit au faussaire. Ah, parce que je vous explique, on s'est réunis il y a quelques jours, donc Jean-Bernard Pouille, Odile Conseil, Lucas Fournier, moi et Patrick. Patrick a fait le même résumé, et ils ont écrit sur le champ, j'ai ramassé les copies, je les ai tapées, elles sont là, ainsi que le vrai texte de Charles Perrault. Donc le début, l'ambiance.
Début, la fin. Je ferai quelques remarques après sur le style aussi, parce que ça peut
c'est
être important.
Ah, c'est important,
hein.
oui.
Commençons peut-être par les caractéristiques de ce style. Quelqu'un l'a défini, le style des contes de Perrault, comme un savant style naïf. C'est tout à fait le genre de chose que Serge peut comprendre. Hein. Donc, et que j'espère les faussaires ont compris aussi, un savant style naïf, c'est-à-dire un style pour nous légèrement décalé, légèrement archaïsant, mais qui est aussi très, très simple. Savant style naïf.
Voilà,
tout est
voilà.
Et c'est Marc Fumaroli qui l'a dit.
On peut mieux faire.
Alors, la première phrase, une précision importante, ça commence par « il était une fois ». Si un des faussaires a commencé son texte en mettant « longtemps je me suis couché de bonne heure », vous ne prendrez pas ça pour Perrault. Donc, avec ce début traditionnel, nous avons... une mise en place rapide des personnages féminins de cette famille sans père, sans homme. La dernière phrase évoque la fin des deux méchantes femmes, la mère et la fille aînée, une fois que la cadette est partie au château avec le prince.
Très bien. Plus rien à ajouter. Je mélange les textes, on va les distribuer au hasard et comme il faut un quatrième lecteur, eh bien ce sera moi. Donc, prenez chacun un texte. Vous éloignez un petit peu d'Eva, Jean-Bernard Pouy. Voilà, c'est le moment. Alors, j'ai oublié de dire que vous allez jouer, vous aussi, bien sûr. Hein, je vous demanderai où se trouve le vrai Perrault et aussi d'attribuer son texte à Odile Conseil, le sien à Jean-Bernard Pouy, le sien à Lucas Fournier. Alors, si vous êtes auditeur assidu, vous avez comme ça en tête un petit peu le style des papous, non? Vous voyez, un peu? Pas trop. Bon, j'espère que vous oserez dire des choses, parce que c'est vrai que c'est un jeu, voilà, où on se trompe souvent, mais c'est pas grave, c'est ça qui est amusant. C'est bon, on y va? Alors, Première lecture, c'est Jean-Bernard Pouy qui lit un texte qu'il a en main. De qui est-il ce texte? Eh bien, aux experts de le dire, Jean-Bernard.
Il était une fois... Je commence très mal. Bon, il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. Et la fin, pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle. Et la malheureuse, après avoir bien couru, sans trouver personne qui voulût la recevoir, alla mourir au coin d'un bois.
Un très joli texte, au bossu. Première impression, Eva Almassy. Oui, mais encore.
Pour qualifier la ressemblance, si quelqu'un voyait la mère, voyait la fille, je pense que c'est très moderne.
Oui.
Ça, au lieu d'archaïser, ça modernise, je trouve, puisque c'est une mise en scène un peu filmique. On les regarde tour à tour et on constate la ressemblance.
D'accord, premier point de vue. Donc, vous écartez Charles Perrault pour le moment.
Oui, pour la fin, bien sûr, c'est beaucoup plus troublant.
Serge Joncourt, elle se mouille pas trop, mais à 50%. Serge.
Oui, donc, s'avance-t-il naïf?
Ouais.
Bon, on y est. Peut-être un peu maladroit, parce qu'il y a, j'ai oublié la phrase exacte, mais c'est que qui la voyait?
Que qui la voyait, croyait voir la mère, c'est
qui,
ça,
alors,
que qui, oui, je crois qu'il y a.
Ça, c'est, oui, il y a ça, oh, oui, si, oh, j'ai entendu.
Pas, c'est ce que j'ai entendu.
Oui, non,
là.
Mais on est d'accord, comme on pas dit.
Oui.
Bien. Le que qui, comment dire?
Ça vous plaît pas?
Si, c'est intéressant. C'est un peu culotté. J'essaie de me mettre dans la tête d'un faussaire essayant habilement de faire du Perrault, de La Fontaine ou du Dumas. Est-ce qu'il laisserait passer un coquille? Alors bon, soit vous l'avez fait vite fait en urgence parce que vous étiez pressé, soit...
Une demi-heure, une vraie demi-heure, pleine, sans papoter.
Est-ce que vous aviez goûté avant? Est-ce qu'il y avait un pot apéritif?
Alors, il était 13h30, c'était chez moi, j'ai offert du vin blanc.
Ah bah,
si ça peut vous aider.
On progresse. Donc, il ne reste plus qu'à déterminer lequel des trois faussaires est le plus alcoolisé ou supporte le mieux. Non, je crois que Jean-Bernard, il est au blanc, Jean-Bernard. Oui. Mais le coquille, franchement, alors là, je suis un peu... Je ne me prononce pas pour l'instant. Mais
on
je
met
vois
des
mal
points
des faussaires.
D'interrogation sur le coquille. Odile Conseil, vous avez vous aussi un texte sous les yeux.
Il était une fois une veuve qui avait deux filles aussi dissemblables que la nuit et le jour. Autant l'aînée était laide et d'humeur acariâtre, autant la cadette frappée par sa beauté et sa bonté. La fin. Quant à la méchante sœur, elle n'eut que ce qu'elle méritait. On l'attacha au tronc d'un gros chêne, au plus sombre de la forêt, où elle fut dévorée par les animaux sauvages. Personne, jamais, ne la regretta.
C'est dommage, parce que le début, j'y étais. Hein. Le début, j'aurais signé, j'allais dire. Puis alors, la fin, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'était quoi comme blanc exactement? C'était du nerveux, hein? Ça devait être du Chablis.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
C'était du Chablis, écoute, bravo.
Non, parce que là, je sens qu'ils ont dû commencer la première partie avant le premier. Et le final, ils se sont un peu lâchés. Heureusement que ça s'arrête là, parce que la pauvre fille, je ne sais pas ce qu'on va.
Ah ben, elle est morte, à mon avis.
Oui, non, ben oui, mais...
Bon, c'est en tout cas, c'est un texte qui a fait rire.
Oui, sur le moment, vous voulez dire? Oui, alors la question, c'est de savoir si c'est le savant style naïf fait rire ou pas. C'est ça,
ah, ça, je ne sais pas.
Pas sûr.
Non, en tout cas, ça c'est trop savant, mais pas du tout naïf. Et à mon avis, cette boisson a été servie, frappée, parce que notamment, frappée par, ça l'est deux, je crois. C'était ça. Ça, c'est très moderne, ça. Ça, c'est très, très moderne. Frappée par sa laideur ou par son caractère acariâtre. Mais... Bon. Cela dit, l'invention de se faire dévorer par les bêtes sauvages, en faire une espèce de Prométhéeus de cette laideur, ça, c'est très, très fort.
Voilà. Alors, on ne sait pas de qui c'est, mais on verra au deuxième tour. Troisième lecture, Lucas Fournier.
Il était une fois une mégère qui avait deux filles. L'aînée était fort méchante et en tout point fourbe et menteuse. La cadette avait l'âme bonne et le cœur généreux. Une mère doit aimer également ses enfants, mais la nôtre adorait la vilaine et haïssait la gentille.
Ouais, c'est un bon début.
La fin. La fille méchante refusa le pardon bienveillant de sa sœur. Chassée de tout et par tous, recrue d'injures, elle s'en fut vivre au fond des forêts, là où sont les bêtes sauvages et les sorcières. Et plus personne jamais n'entendit parler d'elle.
Monsieur oh, triste, mais triste, toutes ces histoires. Ouais. Dire qu'on raconte ça aux c'est enfants.
Mignon. Oui, c'est mignon, c'est mignon.
Serge Joncourt, alors, oui. Des choses qui vous impressionnent dans ce texte.
Oui, alors dis donc, c'est, dès la deuxième phrase, on est presque dans la morale. Hein. Une mère doit aimer également ses enfants. Ouais. Ça, c'est post-dolto. Et pour ce qui est de la fin, il y a une forme d'élégance, il faut le dire quand même, hein, c'est de la belle ouvrage, un raffinement, qui, à mon avis, ça ne peut être écrit que par un faussaire qui est soit en blazer, voire en cravate, enfin, il y a une tenue qui...
On n'en a qu'un ici.
Il y en a qu'un, oui, ben, ça tombe bien parce que c'est à lui que je pensais.
Lucas Fournier, vous diriez.
Oui, c'est une trop belle tenue. Là, on n'est plus dans le savant style naïf, là, on est dans le c'est au-dessus, là.
C'est un compliment qu'on vous fait, Lucas. Oui, vous taisez, vous ne dites rien, s'il vous plaît.
Mais je n'en pense pas moins.
Oui.
Eva Almaïs,
je n'arrive pas à noter assez vite, mais au début, il y a des mots qui sortent de chez Perrault, hein. Tout direct, mégère, fourbe, méchante, fourbe, fourbe, et le cœur généreux. Mais adorer la vilaine, ça je n'y crois pas, parce que à l'époque on n'adorait que Dieu et on pouvait pas adorer ses enfants, ça m'étonnerait énormément. Et puis aussi dans la deuxième partie, refuser le pardon, c'est très fort, le mot recru, mais je pense que c'est quand même quelqu'un du 21e siècle qui a écrit ça.
Alors je vais vous lire le quatrième texte. Donc est-il de Jean-Bernard Puy, de Dil Conseil, de Charles Perrault, de Lucas Fournier? À vous de dire. Il était une fois, au fond d'une triste campagne, un chemin creusé d'ornières, où se traînait une jeune fille en haillons qui pourtant souriait, une lourde cruche à la main, pour ramener en sa chaumière l'eau fraîche d'un puits dont sa sœur et sa mère avaient nécessité pour la beauté de leur teint.
La beauté de leur...
Je ne sais pas ce qui vous fait rigoler.
Leur teint,
T-E-I-N-T. Et la fin. La malheureuse se pencha une nouvelle fois au-dessus du puits, mais ne vit dans l'eau profonde que des serpents. Implora le Seigneur, mais ce ne fut qu'un crapaud qui sortit de sa bouche. Alors, désespérée, elle s'allongea dans une ornière humide et attendit en silence la fin. C'est beau, je trouve.
Chemin.
Et je pense que tous les petits enfants s'endorment sur ça.
Non, c'est pas sûr, ça.
Non, pendant... avec leur mouchoir dans la bouche.
Ah non, pendant 3 semaines, ils dorment avec ça.
Non, il y a trop d'ornières là-dedans. Il y a,
ah bon ?
Je vais vous dire, c'est bourré d'ornières. Il y a des ornières dans le chemin creux au début, oui. Et puis ça finit dans les ornières à la fin. Enfin, je vous dis, ça, c'est quelqu'un qui a une maison de campagne et qui doit avoir des problèmes en ce moment avec les taupes et qui n'arrive pas. Alors, bon, il a beau, elle a beau, il a beau, je ne sais pas qui a une maison de campagne. Après tout, je ne les connais pas si bien que ça. Alors déjà, se pencher au fond du puits, moi, j'essaie de viser. Je ne sais pas comment on fait pour se pencher au fond du puits. Soit on se penche sur le puits, sur la margelle, soit on tombe au fond du puits.
Oui.
Non, Perrault n'aurait pas commis cet impair. Non, parce que lui, il a eu un peu plus de temps que vous autres. Et puis, il y a une sorte de fraîcheur dans la première partie. Il y a le chemin creux, les ornières, après tout, pourquoi pas. Après tout, il y a 4x4 aujourd'hui. La cruche, les haillons, tout ce qui vient. Et puis, cette eau qu'on va chercher, enfin, on se penche au fond du puits pour chercher l'eau. Pourquoi ? C'est pas pour la boire, c'est pour la beauté du teint. Et là, je reconnais une forme d'élégance, de raffinement, de soin de soi qui me fait penser
À qui ça vous fait penser?
Bah, Odile, parce que Odile, c'est la seule qui ait un joli teint autour de... Enfin, je veux dire... Non, c'est pas ce que je voulais...
Non, mais l'argument est faible, elle a joli Serge.
Bon, enfin, les chemins creux, la maison de campagne, c'est quoi? Non, mais... Ça, c'est du solide. Non, c'est Odile.
Bon, déjà, comme ça, vous affirmez, et vous...
Ah bah oui.
Et vous, Eva?
Moi, je dois avouer que j'ai beaucoup de mal, parce que du coup, j'ai pas du tout de Perrault dans les cas.
C'est embêtant.
Normalement,
parce que si tout à l'heure, j'ai dit que le premier texte était cinématographique, alors ça, c'est carrément Hollywood. Ou alors, c'est une adaptation des Misérables, et on voit là Cosette au début.
Savez ce que je vous propose, tous les deux?
Quoi donc?
Pour vous sauver un deuxième tour.
Ah, allez, oui, comme vous voulez.
Les lectures, seulement après chaque lecture, vous devez vous prononcer, et vous aussi dans la salle, vous devez dire, vous ne laissez pas trop influencer par nos experts, hein, ils sont bons, mais pas tant que ça. Première lecture, Jean-Bernard Puy.
Il était une fois une veuve qui avait deux filles. L'aînée lui ressemblait si fort et d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles. Et la fin, pour sa sœur, elle se fit tant haïr que sa propre mère la chassa de chez elle, et la malheureuse, après avoir bien couru sans trouver personne qui voulut la recevoir, alla mourir au coin d'un bois.
Alors, le verdict, oui. Serge Joncourt, c'est de non, qui bah... vous ne reviendrez pas en arrière.
Oh, bah c'est Perrault, oui.
C'est Perrault.
Oui, mais enfin, si vous voulez, à la fin, elle meurt. Elle s'en alla mourir au coin d'un bois, point. Je veux dire, on va pas chercher les ornières, les machins, le décor, et qu'est-ce qu'il fait? Elle meurt, point, au coin d'un bois, parce qu'à cette époque-là, si vous voulez, des bois, il y en avait partout. C'est pas... C'est une misère, c'est terrible. Bon, et puis le coquille, la voyait, ça, c'est trop beau, ça.
Ça ne peut être que du Perrault.
Ah, oh, bah oui.
D'accord. Ah ben, c'est bien, avec Serge, il est concis, il se lance, il n'a pas peur.
Non.
Eva Almassi, c'est de qui?
Moi, je prends aussi Perrault parce que et d'humeur et de visage, bon, c'est cette simplicité naïve qu'il fallait avoir. Et peut-être que le coquille, c'est ça. Qui dérangeait Serge. Et le geste qui met en scène, qui me dérangeait moi, ce sont des contre-arguments moindres quand même que ceux que j'ai contre les autres.
Peut-être. D'accord, nous avons deux Perrault. Qui est pour Perrault dans la salle?
Oui.
Oh, vous n'êtes pas influençable.
C'est une très grande majorité.
C'est aussi le coquille?
Oui.
Ah non, malgré le coquille.
Bon, je dirais qu'il y a un bon 80% pour Perrault. Hein. Il y en a qui voteraient pour quelqu'un d'autre? Criez un peu. Pour qui? Lucas. Ah,
merci.
Ah, il est content. Oui. Vous lui faites plaisir. Là.
Plaisir. C'est vrai.
Bon, allez. Deuxième lecture. Odile Conseil.
Il était une fois une veuve qui avait deux filles aussi dissemblables que la nuit et le jour. Autant l'aînée était laide et d'humeur acariâtre, autant la cadette frappait par sa beauté et sa bonté. La fin. Quant à la méchante sœur, elle n'eut que ce qu'elle méritait. On l'attacha au tronc d'un gros chêne, au plus sombre de la forêt, où elle fut dévorée par les animaux sauvages. Personne jamais ne la regretta.
Ah, mais moi, je dirais que Odile lit son propre texte. Et moi, je connais bien le style d'Odile Conseil puisque je l'avais déjà prise pour Verlaine.
Un jour.
Cette fois, elle ne me trompe pas. Et je pense qu'elle a lu son propre texte parce qu'elle est très soucieuse de justice sociale. Et donc, à la fin, la méchante n'a que ce qu'elle mérite.
Ah,
et puis bon, après, elle a la main un petit peu lourde quand même. Mais c'est aussi son côté magicienne. Elle convoque les bêtes sauvages de la forêt et puis pouf, elle jette le personnage.
Bon, nous avons une Odile très bien argumentée. Serge Joncourt.
Oui, Jean-Bernard Pouet, oui. Bah oui, parce que ça, si vous voulez, ça sent la patte du... C'est un maître du polar. Il peut pas s'empêcher, il retient ses coups. Mais vous voyez, par exemple, nous parle de la cadette, hein, qui est belle, hein, on l'imagine. Bon, comment il dit ça, lui? Il dit, elle frappait par sa beauté. Ça frappe. Vous voyez, ça, il peut pas s'empêcher de cogner. Et alors, bon, alors le Chablis n'est donc pas l'affaire. On avance dans l'après-midi, et puis à la fin, c'est carrément, elle est dévorée, il l'attache. Enfin, c'est Milon de Crotone, c'est terrible. Enfin, bon, moi, ça devrait être censuré, on lit pas ça aux enfants, non.
Bon, donc, à la table, nous avons Odile Conseil pour Eva Almassy et Jean-Bernard Pouy pour Serge Joncourt. Vous êtes pour Odile Conseil ? Oui. Oh, pas beaucoup, hein. Pour Jean-Bernard Pouy ?
Oui.
Ah là là.
Ah. À vous de lire, Lucas Fournier.
Il était une fois une mégère qui avait deux filles. L'aînée était fort méchante et en tout point fourbe et menteuse. La cadette avait l'âme bonne et le cœur généreux. Une mère doit aimer également ses enfants, mais la nôtre adorait la vilaine et haïssait la gentille. La fin. La fille méchante refusa le pardon bienveillant de sa sœur. Chassée de tout et par tous, recrue d'injures, elle s'en fut vivre au fond des forêts, là où sont les bêtes sauvages et les sorcières. Et plus personne jamais n'entendit parler d'elle.
Alors, c'est de qui ? Perrault. Ah. On a quand même des petits Perrault. Hein. Alors, Eva Almassy.
Moi, j'hésite un tout petit peu entre Jean-Bernard et puis Lucas.
Mais c'est tout ce qui vous reste, oui.
Oui, c'est...
Excusez du peu, hein.
C'est tout ce qui me reste. Moi, je vais attribuer ça peut-être à Lucas Fournier. Il lirait son propre texte. Lui, alors, il est soit très rationnel, soit très poétique. Non. Bon, c'est Lucas Fournier qui lit son propre texte.
Et pour Serge Joncourt ?
Je vais vous dire, c'est le plus beau des quatre. Hein.
Ah oui ?
Il est parfait.
Vous faites du mal aux trois autres, y compris.
Je le sais bien, mais enfin, c'est pas grave. Au moins, on saura pourquoi on est fâché. C'est une merveille d'équilibre, vraiment. C'est très beau, c'est très beau. Il y a même la formulation, mais en parlant de la mère, mais la nôtre. C'est-à-dire que, vous voyez, on est à un stade au-delà du lecteur. Enfin, on n'écrit pas pour le lecteur, on est ensemble avec l'auteur. Ça, c'est-à-dire que, en fait, c'est encore plus beau que du Perrault. C'est du Perrault plus, si vous voulez. C'est vraiment. Et ça, il y en a qu'un qui peut faire ça. C'est simple. Parce qu'il connaît bien Perrault, il connaît bien la forêt, vous voyez, la forêt. Il vient de la Malou-les-Bains. C'est dur là-bas, il ne faut pas croire.
Il y a beaucoup d'eau.
Beaucoup d'eau, les bêtes sauvages au fond des bois, tout ça, les mégères fourbes. Enfin bon, il vient d'une région pas facile, il faut le dire.
Donc
oui, Lucas.
Donc, on est d'accord.
Deux Lucas. Alors, qui dit Lucas dans la salle ? Il y a des oui ? Un peu, oui. Et. JB Pouy, non. Oui, oh là. Ça se gâte, Perrault. Oui. Ah. Mais il y a tout le temps des Perrault. C'est-à-dire que vous êtes très, très nombreux. Hein.
C'est des perroquets, ça.
Et Odile Conseil ? Bon, quand même. Alors moi, je vous lis. C'est un texte très partagé, quand même. Je vous lis le quatrième texte. Il était une fois, au fond d'une triste campagne, un chemin creusé d'ornières, où se traînait une jeune fille en haillons qui pourtant souriait. Une lourde cruche à la main pour ramener en sa chaumière l'eau fraîche d'un puits dont sa sœur et sa mère avaient nécessité pour la beauté de leur teint. Voilà, pour le début. La fin. La malheureuse se pencha une nouvelle fois au-dessus du puits, mais ne vit dans l'eau profonde que des serpents. Implora le Seigneur, mais ce ne fut qu'un crapaud qui sortit de sa bouche. Alors, désespérée, elle s'allongea dans une ornière humide et attendit en silence la fin. Ah. Ce texte me touche beaucoup.
Moi aussi, il me touche beaucoup et j'ai un peu étudié les débuts des uns et des autres pour me préparer, comme je ne pouvais pas savoir que ce serait du Perrault. Et il y a un texte de Jean-Bernard Pouy qui commence tout autour, la nuit était comme une photocopie trop noire. Là, c'est comme une photocopie trop noire de Perrault, exactement. Donc, c'est signé et comme il ne me reste plus de toute façon
que lui.
Ça tombe bien.
Mais c'est argumenté, Et alors, Serge Joncourt, il ne vous en reste plus qu'un, vous aussi.
Oui, Odile, mais ça, je l'avais dit.
Oui, vous l'aviez dit au premier tour, donc vous la maintenez, forcément.
Oui, parce que c'est un texte assez citadin, disons-le quand même. Triste campagne, nécessairement. Les campagnes sont tristes, les femmes sont en haillons. Peut-être des sauts, on se penche au fond du puits. Non, c'est une vision un peu citadine de l'affaire. En même temps, c'est un beau texte. Enfin, je veux dire, on peut pas. Un très beau texte d'Odile.
Oui, vous ne voulez pas vous fâcher. Bon, alors, qui est en main? C'est le moment crucial. Le vrai texte de Charles Perrault.
C'est moi.
C'est Jean-Bernard Puy qui a lu du vrai Perrault. Oh, bravo! Bravo! Un point chacun. Un point pour 80% de la salle, un point pour Eva Almassi, un point pour Serge Joncourt. Vous nous lisez le début ou la fin. Peut-être le quiqueux.
Ah, le quiqueux, moi j'y tiens beaucoup.
Il était une fois une veuve qui avait deux filles, l'aînée qui ressemblait si fort et d'humeur et de visage que qui la voyait, voyait la mère. Elles étaient toutes deux si désagréables et si orgueilleuses qu'on ne pouvait vivre avec elles.
Bon, mais bravo, ah, bravo. Oui. Non, parce que reconnaître l'auteur, c'est quand même le gros point de ce jeu. On va demander à Odile Conseil ce qu'elle a lu. Elle a lu un texte de qui, Odile?
Un seul mot, bravo Eva. C'était mon texte.
Ah, vous voyez, ah, ça vient.
Bravo à ceux qui ont identifié aussi. Alors, lisez la fin qui était si charmante.
Merci de rire encore si, plus fort. Si, oui. Quant à la méchante sœur, elle n'eut que ce qu'elle méritait. On l'attacha au tronc d'un gros chêne, au plus sombre de la forêt, où elle fut dévorée par les animaux sauvages. Personne jamais ne la regretta.
Ah, bravo. Non, c'était un très joli texte. Bon, ça fait une chute, Serge.
Oui,
je suis navrée.
Non,
je suis navrée. Petite chute, vous avez voté pour Jean-Bernard Puy, ça aurait pu.
Je ne savais pas Odile aussi.
Si, c'est une violente. Lucas Fournier, vous avez lu le texte de qui?
J'ai lu un texte de Lucas Fournier.
Merci.
Mais Eva a raison, on n'adore que Dieu et on n'adore pas ses enfants. Parce qu'une mère doit aimer également ses enfants. Ah. Mais la nôtre adorait la vilaine et haïssait la gentille.
Voilà, c'était le texte de Lucas. Et ça fait 3 sur 3 pour Eva Almassi, donc elle est très très bien partie. Bon, Serge est...
Évidemment,
elle peut se tromper encore. Hein.
Serge est moins bien partie. Alors moi, je vous ai lu un texte. Tiens, je le passe à Jean-Bernard Puy, puisqu'il en est l'auteur. Relisez-nous, je ne sais pas, ce qui vous a fait le plus rire, c'était le début ou la fin? La fin, peut-être.
Non, les ornières. Ah, mais
Il y en a partout, les ornières.
Je suis une maison en Bretagne, c'est pour ça.
C'était ça, lui, la maison de campagne, Serge.
Bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais.
La malheureuse se pencha une nouvelle fois au-dessus du puits, puis ne vit dans l'eau profonde que des serpents, implora le Seigneur, mais ce ne fut qu'un crapaud qui sortit de sa bouche. Alors, désespérée, elle s'allongea dans une ornière humide et attendit, en silence, la fin.
C'était un très joli texte, Jean-Bernard. En résumé, Eva Almassi a tout bon. Alors ça, c'est un... Je ne sais pas si c'est un miracle ou si...
C'est du talent.
C'est Noël.
Serge Joncourt, ma foi, il a trouvé Perrault. Et c'était quand même l'essentiel. Bravo, quand même, vous rejouerez une autre fois. Et bravo dans la salle à ceux qui ont trouvé certaines choses. Vous avez été très bien. Merci d'avoir joué. Alors, c'est Noël. Et vous écoutez Noël sur France Culture avec les papous dans la tête, petit papou Noël. Et à Noël, c'est l'émotion, on s'aime, on se fait des cadeaux, on oublie tous les conflits. Et puis on mange avec Violaine Schwarz, on mange tous les mets délicieux, mais surtout la bûche. Alors la bûche dans toutes ses acceptions, puisque c'est ce que je vous ai demandé, de traiter de la bûche. Et vous le faites sur une chanson qui est très très connue, mais peu de gens savent que c'est du Lully. Voilà, accompagné au piano par Vadim Cher, juste pour le début, Vadim.
Rondin de bois, dévoré par les flammes, je suis une bûche dans la cheminée, je flamboie, j'éclaire Noël, jusqu'à devenir cendre, pas de cadeau pour moi, pas de merveille, il n'y en a que pour les sales mioches, pour y gâter au milieu des jouets par milliers, il n'y en a que pour les gavroches, tout excité dans les papiers froissés, bruit de fourchette et tintement de verre. Après le foie gras et le plateau de fruits de mer, il y a la dinde farcie de marron. Et il y a, moi surtout ne m'oubliez pas, bûche de chèvre à croûte fleurie, une note de frais dans les estomacs réveillonnés. Bûche de chèvre à croûte jolie, j'appelle le vin blanc à ligoté. Et maintenant, le clou de la soirée, je suis la bûche toute de chocolat enrobée. Pas un repas de Noël sans moi, mes calories s'en donnent à cœur joie. Pour vous gaver, oui, comme des oies, vous vous levez, mais aussitôt vous vous rasseyez. Pour digérer un dernier calva, vous finissez complètement bourré. Dans l'escalier, des cadeaux plein les bras, je loupe une marche et je tombe comme une bûche. Une voisine, entendant le fracas, montre sa tête, j'ai vraiment l'air d'une cruche. Je fais comme si je ne la voyais pas, hormir en sang, je ramasse mes nombreux présents. Je fais comme si tout allait de soi, et je titube jusqu'au fond de mes draps. En cette nuit où le Jésus est né, moi dans ma crèche je dors comme une bûche. Une crise de foi, voilà le résultat de cette veillée. Amen, alléluia.
Et c'est le retour des exercices de style. Donc ils ont travaillé pendant qu'on jouait à plein de choses, pendant qu'on écoutait des chansons, et ils ont réécrit l'histoire de Cendrillon que nous avait résumé Jacques à Bertrand, selon des styles tirés au sort dans un chapeau. Donc le premier qui va jouer, c'est Jacques à Bertrand, qui a donc réécrit l'histoire de Cendrillon, style histoire corse. C'était facile ?
Relativement.
D'accord. Ben on écoute.
Il était une fois un notable corse qui, en seconde noce, avait épousé, sans témoin bien sûr, une veuve continentale, mère de deux chippies. Le notable avait lui-même une fille, belle et sage, d'une grande douceur de caractère, comme sont toutes les jeunes filles corses. Sa belle-mère la traita en femme de ménage. Elle s'abstint de protester, car il n'est guère d'usage de protester par chez nous. Le fils du président de l'Assemblée corse organisa un grand bal où les demi-jurés se rendirent en grands atours. La belle Cendrillonne, pauvrement vêtue, dans la simplicité coutumière aux jeunes filles corses, ne pouvait pas y aller. Par bonheur, elle avait un parrain qui était un peu sorcier. Excellent. Ce ne fut qu'un jeu pour lui de transformer une grosse pastèque en Mercedes blindée et quelques vendeurs de fromage en brigade motorisée. Et sa robe en tunique d'hermine. La petite Cendrillonne fit merveille et le fils du président ne dansa qu'avec elle. Ce ne fut que lorsque les 13 coups de minuit sonnèrent à la cathédrale en Corse, c'est toujours 13 à la douzaine et toutes les églises sont des cathédrales. Qu'elle se souvint que son parrain lui avait commandé de rentrer avant minuit pour des raisons de sécurité. Elle s'enfuit. Les motards redevinrent marchands de fromage. La Mercedes blindée se transforma en trottinette. Et dans sa fuite, Cendrillonne perdit une chaussure. Un superbe escarpin en verre soufflé par nos cousins de Murano. C'est ainsi que le fils du président put la retrouver. L'escarpin de Murano n'allait qu'à elle seule. Et Dieu sait pourtant que les femmes au corps sont le pied fin. Ils se marièrent, toujours sans témoin, mais avec la caution du parrain. Et nagèrent dans le bonheur, qui est une forme d'autonomie comme une autre.
Bravissimo. Et même l'accent. Alors, on va voir avec Hervé Le Tellier ce
bien,
que
bonsoir.
Peut donner le style Les Primaires.
Bonsoir, bonsoir. C'est un moment crucial que traverse le monde du conte de Perrault et trouver le personnage principal du conte Cendrillon et l'enjeu qui nous réunit aujourd'hui. Je vais donc laisser la parole aux 6 candidats qui se sont manifestés, 6 candidats tous très motivés. Et tout d'abord, je voudrais laisser la parole à Cendrillon, puisque le tirage au sort vous a désigné. C'est le hasard pour intervenir la première. Cendrillon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pujadas. Une question du public. Mademoiselle Cendrillon, est-ce que porter le nom du comte suffit à vous donner une légitimité? Eh bien, voyez-vous, monsieur Pujadas, je pense que la légitimité n'est pas une affaire de nom, mais de conviction. Au contraire, me croire légitime m'interdirait de prendre à bras le corps les problèmes qui se posent dans ce comte, et en particulier le politiquement correct qui sature l'histoire. Frédégonde, vous êtes la sœur de Cendrillon, la demi-sœur, en fait, monsieur Pujadas. La demi-sœur, en effet, j'ai une fiche incomplète, pardon. Alors, vous soulignez combien votre présence est indispensable. Absolument, absolument. Je crois qu'il faut rappeler qu'une bonne histoire, c'est d'abord une bonne méchante. Et il me semble que je fais le maximum avec ma sœur Cunégonde, qui n'a pas pu venir car elle souffre terriblement du pied. Et c'est donc un tandem que je symbolise ici et qui... Oui, une question de prince. Non, monsieur Pujadas. Ah bon, j'avais cru que... Bon, alors, donc une des candidates lève le doigt, Olga. Oui, Olga, ce n'est pas un doigt, monsieur Pujadas, c'est une tubercule. Ah, oui, en effet, Olga, c'est une tubercule. Vous êtes donc la citrouille. Absolument, je représente ici la voix des légumes et même des grosses légumes. Le règne végétal est très faiblement défendu lors des contes de Perrault et dans les contes en général, un haricot magique ici, une pomme empoisonnée là. Oui, alors je vois, Olga, je vois que vous n'avez malheureusement pas de programme. Ah non, je n'ai pas de programme, mais en fait, ma présence est avant tout tactique. Voyez-vous, je voudrais surtout retrouver mon potager et ne pas finir en soupe. Alors, pour tout vous avouer, j'espère ainsi monnayer les voix qui se reporteraient sur moi de manière à être ramenées à mon potager. Ça se fait beaucoup, vous savez, en politique, ce genre de... Oui. Bon, alors, monsieur le prince, vous avez demandé la parole. Non. Ah, bon. Alors, Olga, vous voulez donc poursuivre? Vous avez levé la tubercule? Assez de scandales politiciens. Madame Mélenchat, vous êtes la souris grise. Ce n'est pas votre tour de parler. Évidemment, monsieur Pujadas, évidemment, ce n'est jamais mon tour de parler. À nous, le monde du travail, on tire les carrosses, on porte la livrée, mais ce n'est jamais un merci, jamais un égard, jamais rien. Ah, ça pour les princesses, les frères du roi, les fils du roi, les comtesses, c'est la fête. Mais pour nous, c'est le travail de nuit jusqu'à minuit et sans heure supplémentaire. Une réaction, monsieur le prince? Non, monsieur Pujadas. Je laisse la parole donc. Je n'ai pas fini, monsieur Pujadas. Mademoiselle Mélenchat, nous vous repasserons la parole, mais il reste encore à écouter mademoiselle André. Mademoiselle André, vous êtes la pantoufle de verre, c'est un petit contrat que j'ai. Oui, alors, la pantoufle gauche, monsieur Pujadas, je pense que c'est important de le préciser. Elle a le même programme que la pantoufle de droite. Est-ce qu'il faut le rappeler, mademoiselle Mélenchat? On vous repassera la parole. Monsieur le prince, une remarque? Non, merci. Mademoiselle André, on a beaucoup critiqué votre remarque sur le lobby des bottines. Oui, alors c'est un mauvais procès que l'on me fait, une phrase maladroite. Bon, bien, alors continuons ce débat, peut-être après une pause de publicité. J'ai tenu à respecter dans ce petit texte, à la lettre, le niveau de manque d'intérêt observé pendant les primaires.
Et ça s'est passé sous vos yeux, hein. Très fort. Alors Jacques Jouet, c'est pas facile de passer en numéro 3. Vous avez tiré Crise à l'usine. On peut imaginer des très beaux personnages, non?
Il était une fois un roman, un conte, mais ce conte n'est pas un roman. Il était une fois une belle usine moderne et transparente qui fabriquait des chaussures pour les fêtes avec du sable, un four et des souffleuses. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce début? Ce n'est pas du tout le style Crise à l'usine, camarade. On veut nous enfumer avec cette histoire de transparence. Voilà la situation réelle qui nous est en ce moment concoctée par un patronat, M. Laffey en l'occurrence, et des actionnaires sans scrupules.
Ceci voudrait nous faire croire que le carnet de commandes de pantoufles de Verne est aujourd'hui rempli que par une seule commande. C'est une honte. Quand on sait que pour le prochain bal, toutes les jeunes filles à marier du département de la Drôme seront présentes. Elles n'auraient pas le droit à leurs pantoufles de verre personnalisées ? Une seule de ces jeunes filles y aurait droit ? Non, camarades. Nos pantoufles de verre, soufflées depuis des générations d'ouvrières, sont des pantoufles de verre pour toutes. Chacune a le droit de les porter à sa pointure, chacune a le droit de les casser si bon lui chante. Cette décision de M. Laffey cache évidemment une réduction drastique des effectifs. La grève s'impose. La grève fut votée à l'unanimité. Or, cela ne faisait pas l'affaire de Mademoiselle Cendrillon. Elle, qui attendait M. Laffey, qui devait lui apporter une citrouille et ses pantoufles de verre, M. Laffey ne venait pas. M. Laffey était séquestré par ses ouvrières, lesquelles lui avaient sauvagement déchiré sa chemise. Que faire ? Cendrillon, qui n'était pas du genre qui renonce à un rêve, entra déguisée dans l'usine de pantoufles de verre qui était occupée par les ouvrières. Elle s'approcha pieds nus du piquet de grève, but une bière au goulot après l'avoir décapsulée avec les dents, mangea sans grimacer deux merguez carbonisées, enchanta les syndicalistes en chantant des chansons de la Commune de Paris et se proposa pour relever les deux ouvrières affamées qui veillaient sur le patron, M. Laffey, lequel était toujours séquestré dans son bureau. Quand ils furent tous les deux seuls, l'un devant l'autre, M. Laffey et Cendrillon ressentirent au creux d'eux-mêmes, de leurs esprits et de leur corps, une étrange chaleur. Écoutez leur dialogue. « Vous n'êtes pas une ouvrière comme les autres. »« Je ne suis pas une ouvrière. »« Vous n'êtes pas un patron comme les autres. » »« Oh si, je suis un patron comme les autres. » Je prépare un plan social, je suis assisté par l'État sans engagement de devoir embaucher, je dépense beaucoup d'argent pour rémunérer mon optimisateur fiscal, alors si je ne suis pas un patron comme les autres, qu'est-ce qu'il vous faut ? Mais si moi, Cendrillon aux pieds nus, qui ne veut pas porter la paire de pantoufles de cristal que je vois là trôner dans cette vitrine sur votre bureau, si moi, Cendrillon, je vous demande d'abandonner votre poste, d'offrir votre usine de pantoufles de verre à votre personnel réuni en coopérative, et de partir avec moi, faire deux fois le tour du monde à pieds nus, une fois dans un sens, une fois dans un autre. Ah, si vous me demandez ça, Cendrillon, j'accepte. Ils furent heureux et eurent beaucoup d'ampoules.
Eh bien, bravo à tous les trois. C'était brillant. Hein. Une chanson qui fait Noël, qui fait Petit Papou Noël, par Jeanne Carillon. C'est une chanson russe qu'elle va chanter en russe, mais elle est polyglotte, Jeanne. Accompagnée par Vadim Cher au piano et en chanson aussi. Est-ce que vous voulez bien, Vadim, dire le titre ? Parce que vous, vous parlez très très bien russe et pas moi.
Il s'appelle «Три белых коня».
Ça veut dire quoi ?
«Trois chevaux blancs». C'est une métaphore nordique aux trois mois d'hiver.
Très bien, on écoute.
Дома. Это в городе тепло и сыро, это в городе тепло и сыро, а за городом зима, зима, зима. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. снежные объятия, и до весны все дремлетут. Только ёлки в треугольных платьях, только ёлки в треугольных платьях мне навстречу все бегут, бегут, бегут. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. Остыли реки и земля остыла, но я морозу не боюсь. Это в городе мне грустно было, это в городе мне грустно было, а за городом смеюсь, смеюсь, смеюсь. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль. И уносят меня, и уносят меня звенящую снежную даль. Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль.
Petit Papou Noël en public, c'est fini pour aujourd'hui. Une émission proposée par Françoise Trossard, équipe technique et de réalisation, Anne de Pelchin, Pierre Nine, Régis Nicolas, Stéphane Touvenin, notre stagiaire de Noël, Alice Perrega, attachée de production, Marie Dalquier. Les photos de la soirée prises par Marie sont à découvrir sur franceculture.fr, la page du jour, et surtout sur Facebook, il y en a davantage, la page Facebook des Papous. Vous pouvez nous rejoindre, les amis. On se retrouve dimanche prochain, 1er janvier, pour la deuxième partie de ce petit Papou Noël à podcaster, assurément. Au revoir, passez un beau dimanche bien au chaud à l'écoute de France Culture et bon Noël à tous.
Три белых коня, эх, три белых коня, декабрь, январь и февраль.